Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Laure Grand Besançon, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez, aujourd'hui à la technique, Élise Christophe. La gourmandise ce matin est tirée du magistral roman Tess d'Urberville de Thomas Hardy, paru en 1891. C'est une phrase dont la mélodie enchante et le contenu effraie. Je vous la lis dans la traduction de Madeleine Roland. Elle ne craignait pas les ténèbres, sa seule idée était de fuir l'humanité, ou plutôt cette froide agglomération qu'on nomme le monde, et qui, si terrible dans sa masse, est si peu formidable, si pitoyable même dans ses unités. Avant de devenir comédienne, notre petit quart de l'âme passe son adolescence à Londres, puis enseigne un temps l'anglais. Elle étudie le théâtre au cours Périmony et passe 15 ans sur les planches. Savoir qu'elle eut le rôle du chat dans Le Maître et Marguerite de Bulgakov suffit à la rendre sympathique. En 2006, elle coécrit une pièce. En 2009, elle intègre la troupe de Pierre Palmade. Et en 2013, se fait connaître du grand public en interprétant des sketchs en caméra cachée sur Canal+, intitulé Connasse. La dureté de ce personnage gêne un peu au début celle qui se dit pudique, sauvage et timide. Mais comme l'écrit Artaud qu'elle cite à propos, je me suis emmêlé les pinceaux, le comédien est un athlète affectif. Les deux mots lui conviennent bien, notre apothicaire est généreuse et engagée et elle ne s'arrête jamais. Elle imprègne les pellicules des créatrices des sketchs de Canal, Noémie Saglio et Loïse Lang, devenues chacune réalisatrice, jouent sous la direction de Rémi Besançon, Cédric Clapiche, Jalil Lesper, Christophe Honoré ou Robert Zemeckis, met en scène l'humoriste et actrice Camille Chamou dans son spectacle L'Esprit de Contradiction et vient de fonder avec Shirley Cohn, une société de production appelée Malmeux. On aura l'occasion d'y revenir. Bonjour Camille Cotin.
Bonjour.
Question inévitable pour débuter l'émission. Quel est votre rapport à la mélancolie ?
Moi, j'ai un rapport assez affectueux à la mélancolie. J'aime bien la mélancolie. D'ailleurs, vous me recevez pour Chambre 212, à l'occasion de la sortie de Chambre 212.
À l'occasion, mais c'est une des rares émissions qui ne fait pas de promotion,
c'est vrai,
ni d'actu, mais je vais aller le citer à la fin, bien évidemment.
En tout cas, je sais que Christophe Honoré m'a approché parce qu'il trouvait justement, c'est une comédie pour lui, mais il trouvait que au-delà d'un sens de la comédie, il y avait quelque chose de mélancolique. Donc cette mélancolie, elle me plaît et je la renie pas du tout. Non, c'est je trouve que c'est, si j'ai encore le temps de dire quelque chose,
mais je vous en prie, bien sûr.
C'est plutôt le terreau de quelque chose en fait. C'est la mélancolie qui permet un voyage, qui peut donner envie de se déplacer ou de déplacer. De s'aventurer, de partir, de repenser, remodeler. Finalement, c'est pas tellement la joie qui engage ça.
Oui, c'est vrai. Et peut-être que sans mélancolie, on ne bougerait pas.
Non, moi non.
Vous non, moi non plus peut-être. Mais parfois, elle est terrassante, la mélancolie. Elle nous empêche d'agir.
Oui, parfois, elle est... Oui.
Alors, Camille Cotin, vous dites, vous nous avez écrit que justement, elle racontait cette mélancolie, une envie d'ailleurs. Mais quand on a envie d'ailleurs, c'est donc que le réel ne nous convient pas tel qu'il est.
Oui, je pense que la mélancolie, effectivement, c'est comme une petite vague mélodique. C'est une mélodie de tristesse, quoi. C'est une tristesse mélodieuse. Et effectivement, c'est ce sentiment qui fait qu'on a envie de que les choses changent. Mais d'abord, dans ce qu'évoque la mélancolie, il y a quelque chose d'immobile. Je ne sais pas pourquoi. Un concept d'immobilité qui est ensuite, de ça naît un mouvement.
Alors justement, Camille Cotin, je vais annoncer le sommaire aux auditeurs. Et dans ce sommaire, il y a vraiment des gens en mouvement. Peut-être que ça part à chaque fois d'une mélancolie, oui. Le trajet qu'ils effectuent. Mais on va convoquer dans quelques instants Frances McDormand, les artistes Invader et Banksy, The Strokes, Holiday, Synapson, des sorcières, Toni Morrison, de la danse du surf et des malentendus nietzschéens. Juste après, un titre choisi par la programmation musicale de France Inter, Moi de Lolo Zouaille. Et on indique la programmation sur le site de l'émission, comme toujours.
Je ne suis pas chez
à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Camille Cotin.
How much these billboards cost?
About the same as a tractor trailer.
The fuck are you laughing at?
Nothing.
Laugh that bag out with fucking cereal in his hair.
How's Penelope?
Huh? She's all right.
Why don't you invite her in? Save leaving her sitting out there.
Is she here?
She's out in the car.
Oh, that explains it.
That explains what?
I know I smelled something. But...
I kind of need to use the bathroom, but if it's inconvenient, actually, it is inconvenient, isn't it? I can see it's inconvenient. I can hold it. It's all right.
It's the first door down the hall.
Are you sure? I feel like I'm intruding.
Just go pee.
2017, Three Billboards du réalisateur irlandais Martin McDonagh. La scène qu'on entend, je vous laisse la recontextualiser, Camille Cotin, puisque déjà, vous avez enseigné l'anglais et vous avez vécu à Londres. Et pour les auditeurs qui ne parlent pas anglais, de quoi s'agit-il ?
Oui, donc Three Billboards, c'est l'histoire de... L'héroïne, c'est Frances McDormand, immense actrice qui est la femme d'ailleurs d'un des frères Cohen, je ne sais plus si c'est Joël ou Ethan, bref. Et le réalisateur, Martin McDonagh, est donc... accessoirement le fiancé de Phoebe Waller-Bridge.
Waouh, la surdouée du
moment. La surdouée qui a créé Fleabag, qui a créé c'est Killing formidable. Eve, qui est en train de réécrire Jason. Donc vraiment, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette famille. Et voilà, et donc Frances McDormand, ça s'appelle donc Les Panneaux de la Vengeance en français, tente de... En fait, sa fille s'est fait violer et brûler. On n'a jamais retrouvé les assassins, enfin l'assassin, et elle essaye de retrouver... Et elle essaye aussi, même au-delà de ça, de pousser la police à faire son travail, puisque l'enquêteur qui est interprété par Woody Harrelson a complètement lâché l'affaire. Il est également un peu perverti et il n'y a plus d'énergie, justement, par les nazes. Et alors, il y a l'interprétation de Frances McDormand qui est époustouflante. Il y a un mélange de genres dans ce film. C'est une espèce un souffle sur la résilience et la rédemption qui est absolument magnifique, où les salauds deviennent bons, où les bons deviennent des salauds, où il y a une humanité qui est vraiment débordante, des visages sublimes, que ce soit celui de Sam Rockwell, de Woody Harrelson et de l'incroyable Frances McDormand. Et cette scène-là, pour moi, elle m'a marquée parce que c'est la seule fois dans le film où ils parlent de leur fille. Ils se sont séparés, tous les deux, Frances et son ex-mari, depuis la mort de leur fille. C'est le seul moment où tout d'un coup, il y a une émotion quand ils en reparlent. Et ensuite, ça bascule, ça devient complètement burlesque, où la menace d'un couteau, le fils a des céréales dans les cheveux, la nouvelle petite amie arrive et dit « j'ai envie d'aller aux toilettes, mais peut-être que c'est pas le bon moment ». Ils sont littéralement ils ont chacun un couteau sous la gorge, la mère, le père et le fils. Et elle dit « c'est peut-être pas le moment, non, je vois que c'est pas le moment ». Ben, c'est pas grave, je peux me retenir et tout ça. Elle est complètement idiote, oui. Idiote et très jolie, la ravissante idiote. Et en fait, on part d'un truc très profond et en deux secondes, la situation se retourne. Ça devient burlesque, drôle, fou, décalé. Et ça, pour moi, c'est un remède à la mélancolie extraordinaire. Et voilà, c'est un film qui m'a vraiment marquée parce que c'est tout ce que j'aime.
C'est un film aussi très dur. Et ce qu'il y a de fort, un des tours de force du réalisateur, c'est d'avoir mis en scène des personnages absolument pas angéliques. C'est-à-dire que, par exemple, Frances McDormand campe une héroïne très, très violente.
Extrêmement
violente. Elle a des comportements qu'on peut lui reprocher.
Oui, mais c'est un portrait de femme endeuillée. Qui n'est absolument pas victime, qui ne se pose jamais comme une victime. On parle d'une femme qui a perdu sa fille, violée, et il n'y a pas très longtemps, hein, j'arrêtais pas de me dire dans le film, mais attends, ça fait combien de temps?
Mais
ça fait
sept mois.
Sept mois. Ouais. Donc, qui est, mais à des milliers de lieux de ce qu'on peut imaginer d'une femme qui, je parle notamment d'une femme parce que souvent on m'a proposé, enfin, plusieurs fois on m'a proposé des scénarios de femmes qui ont été victimes de trucs très lourds, et les retours elles n'ont pas été produits jusqu'à présent, et les retours c'était, oui, mais cette femme, elle est antipathique. Comme si on fallait qu'on attende d'une femme
qu'elle soit sympathique,
qu'en tout cas le drame la rende fragile et
ouais,
et en
douce.
Demande, oui voilà, et vulnérable, et vulnérable et pas agressive, violente.
Ouais.
Après Frances, il y a une énergie aussi incroyable dans ce personnage. C'est pas et elle lâche pas et on comprend que c'est cette énergie là, c'est aussi ce qui l'a fait vivre et tenir. Cette énergie de la vengeance. Mais après, je suis très touchée par tous les films de vengeance. En fait, je me rends compte que ce soit Three Billboards, Thelma et Louise, Mad Max. Enfin, Mad Max, elle se barre, mais
Kill Bill.
C'est vraiment des films et même Bagdad Café, qui n'est pas un film de vengeance, mais qui est un film de l'après.
De café.
En fait, de café. C'est quoi ? C'est un film de café.
C'est le meilleur film de café dans la catégorie
ouais.
Film de café.
C'est ça.
Camille Cotin, j'ai lu que petite, votre mère ne vous laissait pas voir avec votre sœur Paris, Texas, parce qu'elle vous jugeait trop jeune pour découvrir que la vie pouvait être aussi triste.
Ouais. Oui, mais après, en fait, j'ai compris plus tard pourquoi mon beau-père, qui est le père de ma petite sœur, et j'ai grandi avec lui. Entre autres, il y avait mon père, mais voilà, il était très présent pour moi. N'a jamais connu son père, et qu'en fait, c'était un film qui le faisait énormément pleurer. Alors là, c'est la mère, c'est Natasha Kinski qui disparaît, mais qui avait un rapport. C'est la première fois que j'ai vu mon beau-père pleurer, et qui était très très grand et très très fort. Et j'étais petite, et c'est une image qui marque.
Je les disperse, bien entendu, il y a cette idée, il y a aussi l'idée d'acte de présence, puisque finalement c'est la trace que je vais rester de mon passage sur cette terre. dans cette vie. Et puis après, bien entendu, à partir du moment où c'est posé dans l'espace public, il y a une interaction avec les habitants, les visiteurs, les voyeurs finalement, qui peuvent être n'importe qui. Et c'est ce qui est très intéressant, très excitant dans l'idée de faire du street art, c'est que n'importe qui peut être spectateur de votre œuvre, ce qui n'est pas le cas dans une galerie ou dans un musée où là, on touche plutôt une élite.
L'artiste Invader au micro de Caroline Brouet dans La Grande Table sur France Culture en 2011. Artiste qui tient son nom du jeu vidéo auquel il jouait petit, Space Invaders, les envahisseurs de l'espace, qu'il a aussi utilisé pour nommer la série de figures en mosaïque qu'il dissémine sur les murs de plusieurs villes du monde depuis 1996. En janvier 2019, on en comptait 3712 répartis dans 77 villes. Camille Cotin vous parlait à son sujet de joie de la chasse au trésor.
Oui, mais c'est très ludique. Donc il y a une appli, hein, Space Invader, et c'est très joyeux parce que mon fils, ça l'intéresse, il adore dessiner, et en fait on se déplace plus dans Paris de la même façon. C'est-à-dire qu'on a tout le temps le nez en l'air et on est tout le temps en train de chercher. Après, moi, je suis nulle, hein, je crois que j'en ai genre 272 ou un truc comme ça, alors qu'il y en a 1700 dans Paris. Donc on peut se relier les uns aux autres et voir qui on a. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est extrêmement ludique. Il y en a des très beaux et le street art, de toute façon, de manière générale, c'est quelque chose que je trouve... on parlait de remède contre la mélancolie. Ça anime une ville, ça la rend belle, palpitante, vivante. Et effectivement, Banksy reste le maître incontesté, puisqu'en plus, il est animé de révolte et que toutes ses œuvres ont un sens et que c'est une réponse aussi au capitalisme, au libéralisme.
Justement, Camille Cotin, Banksy, c'est aussi un artiste que vous avez choisi pour l'émission. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser, puisqu'on en parle juste après le film, c'est moi qui ai délibérément mis ces artistes juste après le film qu'on vient d'évoquer. C'est toujours une façon d'interpeller les gens par l'espace public.
Oui.
Ce que vous avez choisi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que celui Billboard, c'est sur des panneaux, en fait, qu'elle.
C'est aussi de rendre les choses accessibles au plus grand nombre.
Oui. Et que les gens se rencontrent et se croisent et se parlent de manière immédiate et spontanée et dans un instant présent.
Je sais que vous êtes une comédienne engagée, Camille Cotin. Banksy, il fait des œuvres à la fois ludiques et très engagées.
Très engagées,
oui. Sur les migrants, dans des endroits inattendus.
Oui, d'abord, oui, et puis il tourne en dérision complètement le monde de l'art contemporain et son système et son industrie, en fait. Et par contre, oui, toutes les œuvres, la majorité de ses œuvres dénoncent. Enfin, toute la violence et l'absurdité de la guerre. Et c'est vrai que ça prend tout son sens quand c'est tagué sur des murs. Et puis, par rapport à la légalité, l'ordre, la police. Enfin. Mais c'est le principe de la révolte, de la révolution, du tract, d'une forme de propagande. Pas de propagande, mais de voix qui s'élèvent envers et contre tout. Et tout ce que l'art peut impliquer aussi de non-violent, en fait, tout en étant très fort.
Camille Cotin.
Tout libre.
Et ça va se retrouver dans les remèdes qu'on va évoquer par la suite. On vous a demandé deux chansons anti-spleen, vous nous en avez donné trois, deux joyeuses et une très triste.
Oui.
Tu peux éteindre la lumière, tu peux danser tant que tu veux. Finir en poussière, je retiendrai tant que je peux. Tes mains dans l'atmosphère, l'odeur des joints, tous les matins, me fout en l'air. Tu veux toujours me plaire, en tes leçons tant que tu peux. Et jamais me faire taire, je l'écouterai tant que je peux. Ton hymne militaire, ta voix parfois, dès le matin, me fout en l'air.
Camille Cotin, vous teniez à partager avec les auditeurs l'odeur des joints du groupe Holidays, formé en 2014. Pourquoi avoir choisi ce morceau ?
Écoutez, j'adore ce morceau. Je pense que ce n'est pas un groupe qui est très connu, mais qui mérite vraiment d'être connu. Qui mérite d'être connu, ça ne veut rien dire. Ce que je veux dire, c'est que tous les gens... moi, on m'a fait découvrir il n'y a pas longtemps, c'est Samantha Markovitch, avec qui je jouais Justice, qui m'a fait découvrir Holidays. Et depuis, je fais écouter cette chanson et tout le monde l'aime. Donc, je trouvais que c'était l'occasion de la partager. Et elle est et en fait elle commence là, on a eu l'intro, donc je vous conseille de l'écouter au bout parce que ensuite musicalement ça monte et c'est super beau et c'est dansant. Mais ça reste quand même extrêmement triste. C'est quand même une fille qui dit que l'odeur des joints tous les matins de son frère ou de son mec, je sais pas, elle l'appelle mon frère, mais en fait maintenant mon frère s'appelle, enfin, j'ai plein de rapports, mais voilà, de quelqu'un qui est clairement dans une forme d'addiction. Mais elle est tellement belle, elle me plaît.
London Ride du groupe français, comme ne le dit pas son nom, Synapson. On danse là, Camille Cotin, en studio.
C'est ça. C'est un remède mon remède à la mélancolie, enfin, même si j'aime la mélancolie, mais c'est de danser. Et voilà, et c'est un morceau d'électro que je trouve. C'est tout, c'est une harmonie en fait, quand il y a le scratch, quand il y a le mec qui dit, au moment où il dit en anglais, I like French girls. Je sais pas, tout est. Harmonieux et voilà, il donne envie de danser et les soirées électro, ça reste. Enfin voilà, j'en ai pas parlé, mais un de mes remèdes à la mélancolie, c'est d'aller en festival de musique, notamment Primavera. J'ai été pour la première fois, c'était un fantasme à Glastonbury. Là, au printemps, il y a eu. On en a aussi en France, hein, qui sont pas mal, mais il y a eu Benny Cassim. Voilà, Primavera, c'est à Barcelone. C'est vraiment un moment de communion. Tellement joyeux, tellement galvanisant et tellement effectivement un peu hors du temps et puis voilà et puis de l'occasion de enfin juste d'écouter de la musique et de danser tous ensemble, d'être avec un groupe d'amis puis de rencontrer d'autres gens et d'avoir trois jours que simplement de musique et de danse dans des cadres assez de nature. Bon, vraiment là on est
ça m'a l'air pas mal.
On est au paroxysme de la joie. Enfin, moi ça me rend vraiment joyeuse.
Le dernier morceau que vous avez choisi, Camille Cotin, c'est un morceau de 2001, Last Night, du groupe de rock new-yorkais The Strokes. On va l'entendre en entier, un petit mot dessus avant qu'on l'écoute.
Oui, ben je la cite souvent celle-ci parce qu'elle vraiment l'intro me pareil ça il y a un endroit où là à un moment la musique elle s'accroche, ça devient organique et ça nous met dans un état, ça s'adresse directement à notre moelle épinière. Bon, ben là moi c'est ça.
Last night, she said.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Camille Cotin. Votre sérum littéraire, c'est l'essai publié en 2018 par la journaliste Mona Chollet, « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Il y a cette phrase dans cet essai, « La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre. Elle montre la voie. » Et en fait, ce qui est fort, et après on va vous entendre, c'est que Mona Chollet part en fait de l'extermination en Europe de dizaines de milliers de femmes au XVIe et XVIIe siècle, sous prétexte qu'elles étaient soupçonnées de sorcellerie. Et en fait, ce n'est pas une guerre contre les sorcières, c'est une guerre contre les femmes et un monde misogyne qu'elle décrit depuis plusieurs siècles.
Oui, et puis les femmes qui ne rentraient pas dans les
cadres.
Dans les cadres.
C'est-à-dire voilà. Les femmes qui refusaient d'être dominées par un homme.
Oui.
Encore aujourd'hui, les veuves.
Les veuves, les guérisseuses.
Les célibataires. Celles qui ne veulent pas d'enfants.
Voilà, on en parle beaucoup aussi. Mona Chollet en parle beaucoup des femmes qui ne veulent pas d'enfants et du rapport de la société à ces femmes-là, du regard qu'on pose sur ces femmes, de l'incompréhension en fait qu'elles génèrent, voire du questionnement de leur raison d'être. Alors,
bah oui, une femme est incomplète évidemment si elle n'a pas d'enfants.
Bah oui, c'est
dans l'imaginaire toujours, collectif.
C'est ça, la femme a sa fonction et. Mais donc, à quoi sert-elle? Après, voilà, c'est ce qu'il y a de très fort dans cet essai, c'est que ça peut être violent. Elle est vraiment révoltée, Mona Chollet, mais il y a une énergie dans sa plume qui est une énergie qui, je trouve, au contraire, engage plutôt qu'elle n'attriste ou n'effondre. Et effectivement, je me souviens quand j'avais lu King Kong Theory, ça avait été un choc du même ordre. C'est dans ces essais, on change on ouvre les yeux. Et ce qu'on fréquente quotidiennement sans que ça nous interpelle, tout d'un coup, nous choque, enfin, nous réveille. Et c'est toujours assez admirable. L'effet que ça produit, puisqu'on est là pour parler d'un remède contre la mélancolie. Voilà, et cette femme, après je crois que vraiment Sorcière, c'est devenu une référence hein, en termes de littérature féministe, mais c'est très pertinent. Ce qui est très agréable, c'est que c'est extrêmement documenté, effectivement, de manière historique, où on repart au 15e siècle, 16e siècle, et voilà, et puis au-delà de ça, la sorcellerie, effectivement, on parle souvent d'une intuition féminine aussi qui est l'intuition de la sorcellerie. Moi, j'ai beaucoup de femmes que je fréquente et qui me, enfin, il y a quelque chose d'imprégné en fait dans notre imaginaire sur la sorcière, qui est une forme d'intuition qui dépasse le cartésien. Et puis après, effectivement, non, carrément, elle va plus loin. Elle parle aussi de l'écologie et de la mère nature qu'on est en train de vider jusqu'à ça.
Ouais, ça c'est vrai.
Jusqu'à l'anéantir.
Camille Cotin, est-ce que vous pensez, parce qu'il est question de femmes puissantes dans ce livre, et de célébrer justement la puissance des femmes, est-ce que vous pensez que des femmes puissantes, c'est forcément des femmes qui ont des attributs qu'on attribue culturellement aux hommes, c'est-à-dire l'indépendance, l'égoïsme, le pouvoir, la force? Finalement, être une femme puissante, c'est forcément avoir des qualités qu'on attribue aux hommes, ou il y a des qualités proprement féminines et puissantes?
Oui, en fait, on s'interroge, c'est très étonnant, les qualités attribuées... le masculin, comment on définit le masculin et le féminin, les adjectifs qu'on choisit, c'est tout ça est tellement.
C'est vrai, on parlait de la douceur de Frances McDormand tout à l'heure. On attend qu'elle soit douce. C'est
oui,
une femme.
On attend qu'elle soit vulnérable, qu'elle soit douce, et elle est tout sauf ça dans le film, et on en est folle, et je crois que la puissance, oui, c'est l'autonomie. Pour moi, la confiance, l'autonomie, mais effectivement, c'est pas se subordonner, en fait.
J'ai lu une anecdote dans un article vous concernant, Camille Cotin. Il paraît que le matin de vos 18 ans, votre grand-père s'est assis à côté de vous et vous a dit « Pour ton anniversaire, je vais t'offrir une opération du nez.
Ouais. »
Et vous, à la place, vous lui avez demandé une moto.
Oui,
ce qui était une bonne réponse de votre part.
Ce qui était une bonne réponse, oui. Bah oui, je me suis beaucoup plus amusée à faire de la moto que... qu'à me contempler dans une glace avec un nouveau-né.
Et il n'aurait pas proposé un nouveau-né à un garçon?
Ouais, c'est vrai, sûrement. Après, il était marrant, mon grand-père, parce qu'il était toujours, il aimait la technologie.
C'est vrai qu'il a l'air rigolo.
Non, mais là, ouais, quand les Blu-ray sont sortis, il m'a dit, maintenant, il faut absolument se mettre au Blu-ray. J'étais là, mais pas du tout, de quoi tu parles et tout. Dès qu'il y avait un nouveau truc, alors que vraiment, il a connu les deux guerres, hein, donc, voilà, le nouveau-né, ouais, il est bon. Mais je comprenais, hein, ça m'a souvent traversé l'esprit. Mais après, je me disais, de toute façon, je fais que du théâtre. Donc, au théâtre, on voit pas trop de loin si j'ai un grand nez ou un petit nez. Je me disais, bon, bah, je ferai pas de cinéma parce que j'ai vraiment pas un nez de cinéma. Et puis, bah, finalement, bon, bah, voilà. C'est vrai que, bon, quand je peux éviter d'être de profil, je dis, là, vraiment, ouais, là, on n'a pas le choix. Ouais. Ok, bah, écoutez, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Mais après, finalement, c'est plutôt, c'est pas par militantisme. Je crois que je suis flippée et que je sais pas du tout la tête. Enfin, là, au moins, je connais mon jeu, quoi. Je connais mes cartes. J'ai pas envie de me retrouver avec un truc où je sais plus du tout. Donc je fais avec et puis.
Camille Cotin, ouais. Avez-vous déjà souhaité ne pas être une femme?
Mais non, en fait. Après, je pense que le truc de la moto, j'allais vraiment vers des trucs de qui sont définis comme des trucs,
oui,
de garçon.
Qui sont définis, faut, oui, le préciser à chaque fois, puisqu'en fait, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire de moto?
Non, voilà, on peut complètement.
Corinne Valente, l'attachée de production de cette émission, fait de la moto.
Et quelle moto a Corinne Valente alors?
Je ne sais pas.
On en parlera tout à l'heure. Moi, j'avais une Kawa W650 que je me suis fait piquer d'ailleurs. Non, mais il y avait des choses de garçon qui me faisaient envie. Et puis, je suis assez physique, sportive, etc. Mais j'aimais aussi les trucs de fille, le costume, le déguisement, notamment. Je sais pas ce que c'est. Alors, ouais, la cuisine, pas trop. J'ai encore. Non, mais c'est pareil. Enfin, maintenant, la cuisine, les hommes font hyper bien la cuisine. Enfin, plus on abat un peu les catégories et mieux on se sent, mais non, je crois pas, c'est une question qu'on nous a souvent posée, et puis notamment avec tout ce qui se passe en ce moment autour du MeToo, etc., en quoi on aimerait, on m'avait même proposé une série, tiens, si t'étais un garçon, qu'est-ce que tu ferais, et je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais tant mieux.
Est-ce que vous nous liriez un extrait de Sorcière de Mona Chollet?
Absolument. Un extrait sur lequel nous sommes tombés d'accord d'ailleurs, parce,
oui,
que vous aviez,
je l'avais coché,
que vous aviez,
oui,
coché.
J'aime beaucoup cet extrait.
Alors c'est un peu tronqué parce que donc Mona Chollet, comme si c'était une copine, non, je rêve, I wish, mais elle cite énormément d'auteurs, de Gloria Steinem, il y a Simone de Beauvoir, enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup d'auteurs et de féministes américaines notamment que je ne connaissais pas du tout. Donc le livre est truffé de références et c'est très enrichissant. Et donc là elle cite Suzanne Sontag. Donc on cite Mona et Suzanne Sontag. À la fin de son article, en 1972, Suzanne Sontag écrivait « Les femmes ont une autre option. Elles peuvent aspirer à être sages et pas simplement gentilles, à être compétentes et pas simplement utiles, à être fortes et pas simplement gracieuses, à avoir de l'ambition pour elles-mêmes et pas simplement pour elles-mêmes en relation avec des hommes et des enfants. Elles peuvent se laisser vieillir naturellement et sans honte, protestant ainsi activement en leur désobéissant contre les conventions nées du deux poids deux mesures de la société par rapport à l'âge. Au lieu d'être des filles aussi longtemps que possible, qui deviennent ensuite des femmes d'âge moyen humiliées, puis des vieilles femmes obscènes, elles peuvent devenir des femmes beaucoup plus tôt et rester des adultes actives en jouissant de la longue carrière érotique dont elles sont capables bien plus longtemps. Les femmes devraient permettre à leur visage de raconter la vie qu'elles ont vécue. Les femmes devraient dire la vérité. Presque un demi-siècle plus tard, ce programme reste à la disposition de toutes celles qui voudraient s'en emparer.
C'est très très beau, ces mots de Suzanne Sontag, lus par vous, Camille Cotin. On continue avec les femmes puissantes, puisque votre citation consolatoire, oui, sort de la bouche d'une magicienne du verbe, disparue en août dernier, la romancière américaine Toni Morrison. « The loneliest woman in the world is a woman without a close woman friend. » La femme la plus seule au monde est une femme qui n'a pas une autre femme comme amie proche. Vous avez beaucoup d'amis femmes ?
J'ai beaucoup d'amis femmes, de longue date. Enfin, pas toutes, mais disons que c'est très important pour moi. Vraiment très important. Il y a une...
Une sororité.
Il y a une sororité, oui, mais on est presque dans l'amour. Et voilà, moi, ça fait longtemps que je suis en couple. Vraiment, mes rencontres d'amitié sont des amitiés amoureuses très fortes. Et puis, alors, j'ai toujours un moment, ça va mieux, ça se calme, mais j'ai toujours un moment d'admiration extrême où ça devient une, sa sorcière, la nouvelle rencontre devient une forme de déesse, et j'ai envie de savoir toujours tout ce qu'elle pense et comment elle se positionne. Et non, mais parce que c'est des femmes, je me suis énormément enrichie au contact de ces femmes qui sont toujours mes amies et qui acceptent les nouvelles venues en disant « Ah tiens, ça y est, moi, il y a un nouveau mais, ». Mais c'est des femmes... enfin, je veux dire qui au contact de ces femmes-là, je grandis et j'apprends énormément, et voilà, et c'est des rapports vraiment on parlait de puissance, voilà, qui génère énormément de force.
Dans un instant, nous réaliserons le tour de force de surfer sans se mouiller, juste après un titre de la playlist Inter, Cigarette After Sex Heavenly. Remède à la mélancolie sur France Inter avec Camille Cottin. Girl, Surfer Girl des Beach Boys pour introduire l'activité qui vous grise, Camille Cotin, les échecs, non, le surf bien évidemment, et vous ajoutez même si je suis nulle et que je viens de commencer.
Mais non, mais oui, c'est ça, c'est vraiment une imposture de sortir ça parce que j'ai commencé cet été et en plus je devais travailler, donc finalement sur un stage de 5 jours, j'ai fait que 2 cours. Donc je préfère être honnête, mais par contre, c'est extrêmement amusant. En fait, moi j'ai retrouvé les sensations de l'enfance, de passer des heures dans l'eau à jouer dans les vagues, sensations que je croyais pour toujours perdu. Et non, voilà, le plaisir de passer 3 heures à jouer dans les vagues est revenu, il a ressurgi, c'était une madeleine. Et en plus, c'est un sport qui est pas très... Enfin, je veux dire, il faut recommencer, recommencer, recommencer jusqu'à ce que le corps comprenne ce qu'il a à faire. Donc, faut juste le faire.
Combien de temps vous tenez sur une planche?
Bon, pas très longtemps. Non, mais attendez, moi je suis sur de la mousse, ce qu'on appelle la mousse. C'est-à-dire une fois que la vague a cassé, cassé, recassé, et qu'il reste un petit filet blanc d'écume, c'est là que d'un coup je me lance. Donc, c'est comme si, en fait, c'est vraiment comme si on filmait au ralenti. Bah voilà, c'est là que
c'est
je
vous.
Me lève. En fait, c'est un moment où on fait. Mais voilà, ouais.
En préparant cette émission, j'ai appris que le surf était né sur la côte nord du Pérou pendant la période pré-Inca, ce qui est incroyable. On a retrouvé des dessins sur des poteries de cette période avec des pêcheurs Incas sur des planches de bois.
Waouh!
C'est voilà, impressionnant pour crâner dans les fêtes qui commencent à 16h. Bon, on approche du dernier remède.
Et si le grand penseur méprise les hommes, c'est leur paresse qu'il méprise. Car c'est elle qui leur donne l'allure indifférente des marchandises fabriquées en série, indignes de commerce et d'enseignement. L'homme qui ne veut pas appartenir à la masse n'a qu'à cesser d'être indulgent à son propre égard. Qu'il suive sa conscience qui lui crie « Sois toi-même. Tu n'es pas tout ce que maintenant tu fais, penses et désires. »
Le comédien Vincent Schmitt lit un extrait des Considérations inactuelles de Nietzsche dans l'émission Les chemins de la philosophie du 12 septembre dernier, présenté par Adèle Vendrette, que je salue au passage sur France Culture. C'était la série intitulée 4 malentendus nietzschéens. Et là, c'est celui qui s'appelle Deviens ce que tu es. C'est le podcast qui vous berce, Camille Cotin. Je vous cite, ça m'apaise tellement que je bascule immédiatement dans l'inconscient.
Oui. En fait, ça commence, et l'émission, elle est bien faite parce qu'au début, ils mettent en parallèle des extraits de films. Par exemple, ils citaient Le Grand Bain. Alors, je sais plus pour lequel des malentendus nietzschéens. Un autre, c'était Working Girl. Donc, au début, c'est vraiment faire de la philosophie quelque chose de très accessible et de la faire rencontrer le quotidien. Et puis, petit à petit, on avance dans quelque chose de quand même plus pointu et plus élaboré. Et oui, ça m'apaise énormément. Après, j'aime profondément Nietzsche. Je le connais pas bien. Attention, hein, c'est comme le surf.
Mais il a l'air sympathique, Nietzsche.
Ah, moi, il me plaît pas. Oui. Enfin, je crois qu'il était assez sûr de lui, mais en même temps, il peut. Mais pareil, je trouve qu'il y a une énergie dans sa réflexion qui est aspirante, quoi.
En plus, il était très très malade physiquement, donc c'est quelque chose qui est assez fascinant de se dire que sa pensée était en ébullition, qu'il a transcendé sa condition physique très affectée.
Absolument, ouais. Dont il parle quand il dit ce qui ne tue pas rend plus fort, qui était l'une des phrases. Et voilà, et de c'est vrai que ça m'apaise. Et puis, comment je m'endors en général avant la fin, je peux les réécouter. En fait, il n'y en a que 4, mais ça me tient bien 10 jours.
Ça fait 5 ans que vous les réécoutez.
Ça fait 5 ans que je les écoute 5 minutes par 5 minutes. Et c'est, je conseille vraiment. Non, mais parce qu'en fait, ça faisait longtemps que je m'étais pas, enfin, c'est très agréable d'écouter Nietzsche réfléchir.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est vraiment très agréable.
Toujours agréable. Et Camille Cotin, vous les écoutez plutôt le soir ou avant de dormir, alors?
Oui, le soir avant de dormir.
Alors, je salue aussi Géraldine Mosna-Savoie qui fait le journal de la philo dans cette émission. Et puis, j'arrête parce qu'on fait quand même beaucoup de propagande là pour une autre émission, une autre chaîne. Donc, vous les écouterez en podcast, s'il vous plaît, et non pas en direct. Merci. Il reste un dernier remède, c'est la danse. Tout à l'heure, vous y avez fait allusion, Camille Cotin. Mais la danse, ça vous met en joie. Vous n'avez aucune inhibition. C'est une question que je pose toujours parce qu'en Occident, on a quand même un rapport à son corps assez compliqué.
Oh, si, j'ai beaucoup d'inhibition. J'ai d'autres remèdes contre l'inhibition, mais
liquide,
entre autres. mais après, c'est vrai que je danse beaucoup quand même.
Toute seule, ça vous arrive
aussi ?
Oui,
oh là là, oui, oui. Oui, oui, je danse beaucoup. Toute seule, ça m'arrive. Ça me fait du bien. J'ai toujours beaucoup dansé. Je danse en groupe, comme on le disait, en soirée électro ou en festival. Mais à la maison, oui, je danse. Et je sais pas trop quoi vous dire d'autre.
Non, mais ça ne se discute pas vraiment, en fait. Ça se fait, ça se mime, ça se vit.
Ça se vit, ouais.
Bon, bah, on terminera sur ça. Merci beaucoup, Camille Cotin, merci d'être venue dans cette émission.
Merci de m'avoir invitée.
Vous êtes en ce moment à l'affiche du film Chambre 212 de Christophe Honoré et de Deux Mois Cédric Clapiche qu'on trouve encore dans quelques salles. Et le 20 novembre prochain, on pourra vous voir dans le film Les Éblouis de Sarah Succo. Vous êtes aussi actuellement en tournage avec Tom McCarthy et Matt Damon. Chers auditeurs, la programmation musicale et les remèdes sont sur le site de l'émission comme toujours. J'espère que vous êtes aussi frétillants qu'un papier crépon lisant Spinoza. Vous pouvez nous écouter en ligne et en podcast, nous retrouver sur les réseaux sociaux. Rendez-vous dimanche prochain à 10h.